Ça va bien tout le monde? On va prendre un petit temps ensemble dans la parole. Et ce matin, ça va être un petit peu différent. Alors, encore une fois, si vous êtes en visite, tout est différent ce matin. On a l'habitude dans cette assemblée vraiment de prendre le temps de prendre un passage des Écritures assez long et puis prendre le temps de l'exposer, de le regarder ensemble. Et ce matin, Danny m'a demandé de répondre à une question, en fait. Alors, je vais vous partager un peu ce que j'ai sur mon cœur et j'espère que ça va produire une réflexion chez vous pour votre famille. La question à laquelle Danny m'a demandé de répondre, c'est « Comment conduire ma famille dans la mission? » Les chrétiens, on est sur la terre pour une raison, n'est-ce pas? En plus de glorifier Dieu, évidemment, la raison pour laquelle on est sur la terre, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est ça qu'on veut faire, n'est-ce pas? On veut partager cette grâce qu'on a reçue de connaître l'amour de Dieu à travers ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur cette croix pour nous. Et donc ça, c'est notre mission, c'est d'aller partager cette bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Et Danny m'a dit « Oui, mais OK, on veut avoir ce thème-là avec les enfants cette année. Il faut que le thème se reproduise à quelque part dans nos familles. Comment on conduit une famille dans la mission? Comment est-ce qu'on réussit à faire ça? » Et ce que j'ai pensé faire avec vous, c'est chercher à répondre à cette question-là en adressant une autre question aussi qui, naturellement, est peut-être plus chaude sur nos cœurs comme parents. Et c'est la question « Comment conduire mes enfants au Seigneur? » D'accord? Alors, si vous n'êtes pas familier avec une assemblée évangélique, ne voyez pas dans cela une idée selon laquelle, à force d'endoctrinement, on va réussir à produire des petits chrétiens. Non, ce n'est pas notre compréhension de cette relation avec Dieu. C'est quelque chose d'éminemment personnel, ce choix-là. Mais en même temps, comme parents, n'est-ce pas, je veux leur communiquer mes valeurs, les choses que j'ai à cœur, je veux enseigner ça à mes enfants et leur donner toutes les opportunités possibles de comprendre ma foi afin qu'ils puissent faire un choix personnel dans ce sens-là. Et ce que je voudrais faire ce matin, c'est mettre les deux questions ensemble. Parce que je vous propose ceci. Peut-être que la meilleure manière de m'y prendre comme parent pour conduire mes enfants au Seigneur, c'est de conduire ma famille dans l'ensemble, dans la mission. Si la meilleure manière de conduire mes enfants au Seigneur était de conduire la famille ensemble dans la mission. Et cette idée-là me vient de ceci, d'accord? Je pense que c'est très facile pour nos enfants de comprendre le christianisme, de comprendre votre foi à vous et l'Église comme ceci. Voici à quoi sert la foi chrétienne. Te mettre en règle avec Dieu, régler les grosses questions avec le monsieur d'en haut, puis après ça, avoir des principes pour avoir une vie qui a de l'allure. En d'autres mots, te garder hors du trouble, loin des problèmes. Et je crois que c'est très, très facile pour nos enfants, même si on est consciencieux, on rouvre les Écritures, on lit tout ça, de saisir cette espèce d'image globale. Au-delà de tout ce que je dis, ce qu'ils retiennent, c'est voici ce que le christianisme fait. Ça t'aide à te mettre en règle avec Dieu, puis ça t'aide à avoir des principes pour construire ta vie. Puis là, tu regardes un peu ce qui se passe ailleurs, tout ça, puis tu dis, bien, c'est bon d'avoir des principes pour construire ma vie parce que ça a l'air un petit peu n'importe quoi, tout ça, et ça me donne ça. Maintenant, voyez-vous, si c'est ça que vos enfants saisissent du christianisme, si ce que vos enfants comprennent du christianisme, c'est que la foi chrétienne, ça sert à me mettre en règle avec Dieu, régler mes problèmes avec le monsieur qui gère l'univers, puis après ça, avoir des bons principes pour construire une bonne vie, vous êtes dans le trouble. Vraiment, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble parce que ce que vous allez produire en réalité, ce sont de petits religieux. Des gens qui vont venir à l'Église pour justement être en règle avec Dieu, puis avoir des principes qui sont mieux peut-être que d'autres pour ne pas faire trop de niaiseries, puis réussir à construire leur vie. Et ce que vous allez enseigner, même si ce n'est pas votre désir, ce que vous allez enseigner à vos enfants, c'est ben, comment je me comporte avec des chrétiens. Quand je suis avec des chrétiens, voici comment je me comporte, voici comment un chrétien pense, voici comment je dois agir. Et puis lorsqu'ils vont se retrouver à l'école, avec les gens de l'extérieur, avec les gens qui ne sont pas comme ça, ils ne sauront pas vraiment comment être, comment vivre leur foi. Et donc, ce que ça va les amener à faire, et je sais qu'il y a bien des adultes qui peuvent s'associer même déjà avec ça, ce que ça va les amener à faire, c'est tout simplement à vivre deux vies. Tu as ta vie chrétienne, puis tu as ta vie hors du milieu chrétien. Mais ils n'auront pas appris à vivre leur foi publiquement, à vivre en interaction avec l'extérieur et tout simplement être une personne intègre, qui est la même personne d'un bout à l'autre. En fait, peut-être qu'il y a quelques adultes ici dans la salle, c'est même ça que vous avez saisi du christianisme. Jusqu'à présent, ce que vous avez compris, je ne sais pas, peut-être ça fait quelques temps que vous venez à l'Église ici, et ce que vous avez saisi du christianisme, c'est que c'est ça en gros. C'est un moyen de faire la paix à l'intérieur avec le Dieu de l'univers, parce que j'ai ce sentiment-là inné qui me dit qu'il Il y a plus que juste un hasard, il y a un créateur, il y a une intelligence, il y a quelqu'un quelque part, puis j'ai des angoisses profondes à régler. Et donc, ce que le christianisme me permet de faire, c'est de régler ça, et puis dans un deuxième temps, me donne des principes, parce que juste par moi-même, ça s'en allait comme n'importe où ma vie. Et si c'est ça que vous avez compris du christianisme, si ça se résume à cela, mais bêtement, je vais vous rendre service ce matin, puis je vais vous dire quelque chose de vraiment plate. Il y a de très fortes chances que vous ne soyez pas chrétien. De très, très fortes chances que vous ne soyez pas chrétien. Parce que le christianisme, c'est tellement plus que ça. Tellement plus que ça. Et ce que je désire, ce que je prie, ce que je veux, et comme parent, ce qu'on veut pour nos enfants, comme parents chrétiens, je veux que mes enfants saisissent beaucoup plus que ça du christianisme. Dans la Bible, Dieu nous a donné deux commandements extraordinaires. C'est vraiment des commandements tellement beaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vas aimer Dieu passionnément. Tu vas reconnaître que dans ce monde, tu n'es pas seul. Il y a un Créateur qui est là et il a créé toutes choses bonnes. Et tu veux vivre dans la lumière, à la lumière de son amour, de sa grâce. Et tu vas l'aimer passionnément. Premier commandement. Deuxième commandement, c'est quoi? Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? C'est qui nous dit Jésus? C'est l'étranger. Ton prochain, c'est celui qui est le moins probable de devenir ton ami. C'est ça que nous dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est un commandement incroyable. Imaginez un instant que la terre entière applique ça. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui, pour moi, n'a aucune chance de devenir mon ami, on n'a pas d'affinité, on n'a rien en commun, mais je vais aimer cette personne-là comme je m'aime moi-même. Avec les mêmes égards, les mêmes soins, les mêmes attentions, la même générosité pour me gâter un peu. Imaginez un instant, la terre, de quoi ça aurait l'air? On ne serait pas en train de lire les conflits géopolitiques débiles qu'on est en train de voir actuellement, où il y a des enfants, il y a plein de gens qui souffrent, puis on se demande comment faire ça à l'échelle planétaire. Et voyez-vous, c'est ça le christianisme. Ces deux commandements-là, aimer Dieu de tout mon cœur passionnément, aimer mon prochain comme moi-même. Et ce que la Bible nous dit, c'est que le cœur humain est fondamentalement incapable de faire ça. L'être humain n'est pas capable de répondre à ces deux commandements-là, n'est pas capable d'entrer là-dedans. Nous n'arrivons pas par nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous luttons. Et des fois, avant de commencer à lire les Écritures, peut-être que ta vie ne t'a pas conduit à réaliser cette incapacité que tu as à être fondamentalement bon et généreux comme les Écritures nous invitent à le faire, mais quand tu commences à lire les Écritures, tu commences à regarder Jésus, tu commences à regarder les standards de Dieu, puis à un moment donné, tu réalises, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose en moi qui est tellement crasse que je n'arrive pas à me rendre à cet endroit-là. Et c'est là que l'Évangile intervient. C'est là que la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait intervient. Jésus intervient dans nos cœurs, et lorsque je saisis mon incapacité profonde à répondre, à obéir à ces deux superbes commandements-là, lorsque je réalise ça, à un certain moment donné, je me tourne vers Dieu, je crie à Dieu et je prends conscience que ce que Jésus est venu faire en mourant sur cette croix, c'était un sacrifice qu'il était venu faire pour payer pour mon incapacité, pour ma nature pécheresse, ce qui me porte à l'égoïsme, ce qui me ramène constamment vers ces penchants-là profondément égoïstes. Lui est venu pour payer pour ça, pour ces fautes-là. Il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, afin que je puisse être pardonné de mes péchés et que je puisse recevoir par l'Esprit Saint un cœur nouveau. Et ce que l'Évangile vient produire dans le cœur humain, c'est le désir et la capacité d'obéir à ces deux commandements. C'est vraiment important. Pas seulement un des deux. Et je sais que pour beaucoup de chrétiens, vous dites, attends un petit peu Yannick, le désir, ça va. La capacité, c'est une autre chose. Ce que l'Évangile vient produire dans nos cœurs, ce n'est pas instantané. Mais ce que l'Évangile vient produire dans nos cœurs, c'est le désir et la capacité d'obéir à ces deux commandements-là de plus en plus dans ma vie. Parce que j'entre avec ce cœur nouveau qui m'est donné au moment où je crois en Jésus-Christ, avec ce cœur nouveau qui m'est donné, j'entre dans un processus extrêmement profond de transformation où de plus en plus, année après année, l'Esprit Saint, par sa parole, vient me confronter, vient me montrer des domaines où ce n'est pas tout à fait encore là, et puis vient produire en moi cette capacité et ce désir Et des fois, je me promène entre les deux. Vous savez ce que c'est après quelques années de vie chrétienne. On a des moments hauts, des moments bas. Mais c'est ça que l'Évangile produit. Et donc, l'Évangile produit beaucoup plus que quelqu'un qui a compris, « Ah, OK, je peux me mettre en règle avec le monsieur d'en haut, puis je peux me tenir hors du trouble en ayant des principes dans ma vie. » C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'à partir du moment où l'Évangile entre dans mon cœur, ce qui est en train de se produire en moi, ce qui est en train de s'installer progressivement, c'est une passion pour Dieu. C'est un amour pour Dieu. Dieu devient mon modèle en toutes choses, mon père en toutes choses, celui qui m'accompagne, mon compagnon. Et donc, de plus en plus, ce qui croît, ce qui grandit dans mon cœur, c'est ce désir d'être comme lui, à sa ressemblance, de le glorifier, de prendre plaisir à le laisser intervenir dans ma vie. Et le deuxième commandement, qu'est-ce que l'Évangile vient produire? Ça vient produire beaucoup plus que « il ne faut pas que tu te chicanes avec ton petit frère ». Beaucoup plus que « il ne faudrait pas que je paye quelque chose en dessous de la table ». Beaucoup plus que « il y a des règles à respecter pour que la société fonctionne comme il faut ». Vous comprenez, c'est tout bon ça, là. Mais aimer mon prochain comme moi-même, c'est pas mal plus que ça. Ça veut dire que j'ai ce désir d'aller vers l'autre, ce désir d'aimer l'autre, ce désir de faire de la place à l'autre, ce désir de laisser l'étranger venir déranger ma vie. C'est énorme comme bouleversement. Quelqu'un qui est transformé comme ça n'est pas la même personne au travail que le reste des collègues de travail. Et c'est ce que l'Évangile vient produire en moi. Maintenant, lorsque Danny m'a apporté cette question-là, je me suis dit, il y a un passage que j'ai à cœur de voir pour essayer de mettre tout ça ensemble et voir cette dynamique-là de la mission et conduire mes enfants au Seigneur. Et évidemment, c'est Matthieu 28, 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20, je m'excuse. Je vous lis les deux versets rapidement. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque je pense à mes deux enfants, le Seigneur nous a donné deux enfants, deux ados, deux jeunes adultes. Et lorsque je pense à mes enfants, le plus ardent désir de mon cœur, c'est de les voir devenir des disciples de Jésus-Christ. Ce verset-là résume tout ce que je désire pour eux. Je désire qu'ils apprennent à observer tout ce que Jésus a enseigné. Qu'ils prennent plaisir à aller voir ce que Jésus a enseigné, le modèle qu'il a donné, et qu'ils désirent dans leur cœur tout simplement vivre à la lumière de ces vérités incroyables. Et c'est ça le désir le plus ardent de mon cœur. Je veux faire de mes enfants, par la grâce de Dieu, j'ai dit tout à l'heure, ça va être leur décision, mais je veux leur communiquer et leur donner toutes les chances possibles, pour autant que ça relève de moi, de devenir des disciples de Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Je veux qu'ils prennent plaisir à observer tout ce que Jésus a enseigné. Maintenant, ce passage-là a un contexte particulier. C'est le contexte du dernier mandat que Christ a donné à ses disciples. Dernier moment avant de partir, Jésus s'adresse à ses disciples et leur donne une directive, une seule directive. Et il leur dit, voici, vous allez sortir de votre zone de confort, la gang. Vous allez aller vers les nations, vers l'étranger, et vous allez aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure qu'ils vont croire dans cette bonne nouvelle, vous allez les baptiser au nom de Jésus-Christ. Puis vous allez les enseigner, vous allez les instruire à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, si je suis moindrement sensible au texte, il y a une dynamique qui est ici. Si j'annonce l'Évangile à quelqu'un, puis que la personne croit en Jésus-Christ, elle accepte l'Évangile, qu'est-ce que je vais lui enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit? Qu'est-ce que Jésus vient de prescrire ici? D'aller faire de toutes les nations des disciples. Je ne me rends pas jusque-là, je n'ai pas fait encore un disciple de Jésus-Christ à qui j'ai enseigné à observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Voyez-vous, il y a ce cycle-là constant. Et pour moi, ça, c'est la plus belle incarnation de cette transformation que l'Évangile vient faire dans le cœur humain, où à un certain moment donné, mon cœur commence à battre au rythme du cœur de Dieu qui voit la terre entière, qui voit ces milliards de personnes et qui dit, il faut qu'ils entendent l'Évangile. Mon Fils est venu sur la terre mourir sur cette croix pour le salut des hommes, pour le salut de milliards de personnes. Il faut qu'ils entendent l'Évangile. C'est là qu'est le cœur de Dieu. Et lorsque mon cœur est affecté par l'Évangile, mon cœur est passionné pour Dieu, il commence à battre au rythme du cœur de Dieu avec cette même passion-là. Ça me conduit directement dans le deuxième commandement. Parce que je vais aller vers mon prochain, vers l'étranger. Je vais aller vers lui pour lui faire du bien, pour l'aimer, pour venir en aide. S'il y a des besoins, évidemment, il a besoin de mon manteau, je vais lui donner mon manteau. Il a besoin de nourriture, je vais lui donner de la nourriture. Mais je suis chrétien. Et ce serait vraiment triste, et ça arrive souvent, mais c'est tellement triste lorsque tout ce que je peux faire pour toi, pour t'aider, c'est de te donner du pain, sans jamais te conduire à te réconcilier avec ton Père pour avoir ce cœur nouveau qui est la batterie incroyable qui te conduit après dans toute ta vie. C'est ça que je veux te donner ultimement. C'est toujours ça que je veux te donner. Je veux te donner l'Évangile de Jésus-Christ afin que ton cœur soit transformé, qu'à ton tour, ton cœur se mette à battre au rythme du cœur de Dieu et que tu te mettes à regarder les gens autour de toi, ton prochain, pas seulement ton petit frère, ta petite sœur, les gens proches, ta famille, mais au-delà de ça, à regarder l'étranger avec les yeux du cœur de Dieu et à voir ce même amour que Christ a eu en venant mourir sur cette croix, cet amour qui m'amène à mourir à moi-même pour me donner pour mon prochain. Et c'est ça que je rêve pour mes enfants, c'est ça que je désire pour mes enfants. Et je crois que le bon ou le meilleur moyen d'exposer mes enfants régulièrement à l'Évangile et pour les protéger d'une vision du christianisme qui est une espèce de religion où tu trouves des clés, des réponses pour pouvoir te mettre en règle avec lui, puis après ça, pas trop te chicaner avec les gens autour de toi puis avoir des principes pour construire ta vie. Le meilleur moyen, c'est de les conduire dans la mission. Parce qu'autrement, mes enfants, ce qu'ils vont saisir de ça, c'est que le christianisme, en fin de compte, c'est juste une manière de donner un peu plus de place à Dieu dans ma vie. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Puis maintenant, il me donne des principes pour me construire une bonne vie. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est juste le début. La fin de tout ça, c'est glorifier Dieu puis aimer mon prochain. Être là pour les autres. Représenter Dieu dans cette vie. Alors, lorsque je commence à conduire ma famille dans la mission, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, conduire ma famille dans la mission? Ça veut dire que, comme famille, on fait des choix d'avoir une priorité d'aller vers l'autre. J'ai utilisé le terme « étranger » à plusieurs reprises. Si je ne conduis pas ma famille dans la mission, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour le salut des âmes. On va prier pour des gens, c'est évident. Parce qu'il y a plein de gens dans notre famille qu'on aime énormément, qui ne connaissent pas le Seigneur. Écoutez, je l'ai fait, c'est super, c'est même très, très important de le faire. Déjà, c'est un point de départ. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour grand-papa, pour grand-maman, pour les cousins, pour les amis, pour des gens, des collègues à l'école, n'importe qui. On prie pour des gens qu'on a à cœur, des gens qu'on aime, puis on prie pour leur salut. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque cette personne-là dit non pour l'instant? Pour l'instant, elle est fermée. Et chaque être humain a un choix à faire, tu sais. Et on va continuer à prier pour eux, évidemment. C'est des gens qu'on aime, je les ai à cœur. Paul avait à cœur qu'Israël, au complet, se convertisse, devienne chrétien, croit en Jésus-Christ, reconnaisse son Messie. Il aurait voulu que tout Israël se convertisse. Il était prêt à donner son âme pour ça, si ça avait été possible. Je vais continuer à prier pour eux. Mais là, on parle de champ missionnaire, qui est un champ à travailler, à cultiver à long terme. On continue à semer, on continue à les aimer, on cherche des opportunités, on prie pour eux. On travaille sur le long terme. Mais si ça s'arrête là, je ne suis pas en mission. Je ne suis pas en mission parce que le passage de Matthieu 28, ce qu'il me dit, c'est que je vais aller vers toutes les nations. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit « Vous irez vers votre nation ». Non, Israël avait compris ça fait longtemps. Dans l'Ancien Testament, ce qu'ils avaient à cœur, c'était Israël. Mais ce n'est pas ça qui se passe ici. Jésus dit « Allez vers les nations, allez faites de toutes les nations ». Et donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais aller vers l'étranger. Je vais aller vers l'autre qui ne fait pas partie des gens qui, d'une manière ou d'une autre, par intérêt personnel, je vais les prendre à cœur, je vais avoir à cœur de prendre soin d'eux. Mais je vais aller vers celui qui est complètement à l'extérieur de mon champ d'intérêt personnel. Et donc, si je veux conduire ma famille dans la mission, je vais enseigner à mes enfants à commencer à faire de la place pour l'étranger, pour celui qui, naturellement, ne serait pas un des nôtres, ne serait pas invité chez moi. Et on va commencer à prier pour ça ensemble. On va continuer à prier pour la famille, mais on va commencer à prier pour ces gens-là. On va chercher des opportunités ensemble d'ouvrir notre maison justement à l'étranger, à l'autre. Écoutez, les opportunités sont énormes. Avec le voisinage, avec quand les enfants sont tout petits, ils commencent à aller jouer au parc, tu jases avec des gens, puis Vous savez comment est-ce que la vie est rapide. On dit, oui, mais attends un petit peu, là. Moi, je suis chrétien. Ça veut dire j'essaie de prendre du temps avec Dieu. J'essaie de marcher avec Dieu. J'essaie d'être un bon père. J'essaie de me garder en forme. J'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça. Puis à la fin de la semaine, tu dis, bien, écoute, là, j'ai fait mes devoirs spirituels. J'ai fait mes devoirs familiaux. J'ai fait mes devoirs de couple. J'ai fait ma job, puis je vais aller me coucher. Je vais essayer de me trouver 2 heures pour écouter un film et décompresser. Mais lorsque je décide d'orienter la famille sur la mission, on commence par la prière. On dit, oh, attends un petit peu, Seigneur, là. S'il faut qu'il y ait de la place pour ça, pour ma famille, aucune idée comment on va faire ça. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Je n'ai pas de temps pour la mission. Honnêtement, je n'ai vraiment pas de temps pour que mon voisin accepte le Seigneur. Je n'ai pas de temps pour ça. Il faudrait que lorsque j'arrive à la maison, déjà, je prenne le temps de le saluer, puis que j'espère pas qu'il ne soit pas là en stationnant ma voiture, puis rentrer par en arrière pour être certain que je ne me fais pas déranger, parce que lui, quand il t'accroche, il commence à parler, tu sais. S'il fallait que je l'invite chez nous, ça se peut même qu'il débarque sans se faire inviter. Fait que tu sais, tu gardes des petites distances, comme ça tu ne te fais pas déranger, les gens ne viennent pas chez vous, puis tu sais, tu as ta vie personnelle. Parce que j'ai ma vie sociale, on s'entend, j'ai ma vie sociale à l'église, j'ai ma vie sociale au travail, je me garde un peu de temps pour le sport, j'ai pas de temps pour l'étranger. J'ai pas de temps pour ouvrir ma maison pour l'étranger. Et lorsque je décide de conduire ma famille dans la mission, je commence par la prière, je commence à parler avec mon époux, mon épouse, je commence à jaser avec des amis, je commence à voir tout ça, à faire une espèce de bilan de la situation. Puis là, je commence à dire aux enfants, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Parce que les gens autour de nous ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et là, on commence à prier ensemble. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en train de prier avec mes enfants pour que Dieu nous donne des opportunités pour annoncer l'évangile? Bien, mes enfants entendent parler de l'évangile. Mes enfants entendent la question même pour eux-mêmes. Où est-ce qu'ils sont par rapport à l'évangile? Et voyez-vous, c'est un des grands privilèges, un des grands bénéfices de conduire ma famille dans la mission, c'est que l'évangile devient constamment présent dans mon foyer. C'est ça qui se passe. Mais avec une perspective qui n'est pas seulement « Est-ce que toi, mon fils, ma fille, tu aurais besoin de l'évangile pour te mettre en règle avec Dieu? » C'est beaucoup plus que ça que l'évangile vient produire. L'évangile va venir te donner un cœur nouveau pour que tu aies à cœur. Et là, on commence à prier avec les enfants, puis on commence à chercher des opportunités. Peut-être que ça va être dans le voisinage. Peut-être qu'on va inviter des collègues de travail. Peut-être qu'on va venir s'impliquer à la bouffe pour tous. Puis on y va en famille, puis on dit, « OK, attends un petit peu, je veux faire plus que simplement distribuer des aliments. Moi, je suis là pour aimer des gens. » Puis ça donne qu'il y a plein d'immigrants qui viennent à bouffe pour tous. Puis ces gens-là n'ont peut-être pas d'amis à l'extérieur, ils viennent d'arriver ici. On va les inviter à manger chez nous. Ne serait-ce que pour offrir à quelqu'un qui arrive au pays de dire, « Attends un petit peu, ils savent accueillir ces gens-là. » Ils voient qu'on est dans le besoin, ils font plus que nous donner des légumes. Ils nous invitent à manger chez eux. Peut-être que je vais avec mon petit groupe commencer à discuter, puis on va décider, notre petit groupe, d'aller dans la mission ensemble. On va chercher à créer des opportunités. On ouvre des fenêtres comme ça à l'étranger. Et mes enfants sont engagés dans ça. Ça fait longtemps que j'ai à cœur de le partager avec l'Église parce que dans la famille Étier, ça fait 2-3 ans qu'on est en train de réfléchir à tout ça. Et régulièrement, j'en parle avec Danny, puis on réfléchit à ça, puis on se dit, c'est quand même le meilleur endroit pour former mes enfants comme disciples de Christ, puis les exposer à l'Évangile, que de le faire dans le contexte de la mission, parce que c'est là que je les mets le plus à l'abri de leur présenter le christianisme comme une religion pour avoir un code de conduite dans ta vie. Parce que lorsqu'on commence à aller dans la mission, ça commence à déranger notre horaire, ça prend du temps. Et des fois, on a des conversations. Il m'est arrivé avec les enfants, ou à un moment donné, les enfants viennent te voir et ils disent, tu sais, papa, je parle avec les amis à l'école, puis on a une vie vraiment occupée. Hein? Les amis à l'école, ils n'ont pas une vie comme ça, aussi chargée que ça. Mais parce qu'on les a embarqués avec nous progressivement dans la mission, à un certain moment donné, on leur pose la question, puis on dit, OK, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'on roule beaucoup. C'est vrai qu'il faut toujours chercher un équilibre, puis essayer de garder du temps pour se reposer, se retrouver en famille, puis se garder en forme, tout ça. Est-ce que tu voudrais qu'on soit une famille différente? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse les choses différemment? Et vous savez quoi? Qu'ils aient tout saisi sur l'Évangile, qu'ils aient fait tout leur choix ou non, leur vision du monde a changé. Et la réponse qu'ils nous donnent, c'est non, on est en train de faire la bonne chose. Parce qu'à un certain moment donné, les discussions qui commencent à sortir autour de la table, c'est on parle de telle famille qu'on a invité à manger chez nous, puis ils ont vu des choses, ils ont vu que, oups, ils n'ont peut-être pas toutes les ressources qu'on a avec l'Évangile et avec les Saintes Écritures. Et puis, ils voient qu'il manque des choses. Puis, on commence à parler de ces gens-là. Charitablement. Parce que la tentation peut venir de dire, ah oui, tu sais, nous, les chrétiens, on a des principes. Oui, mais attends un peu, je veux conduire ces gens-là au Seigneur. L'Évangile est au centre de nos conversations. Alors, ça va même me conduire à dire à mes enfants, oui, mais sais-tu quoi? si je te racontais mon histoire à moi, sans que Jésus-Christ intervienne dans ma vie, vraiment, ils ne sont pas dans le trouble comparé à là où moi je m'enlignais. Et ça ouvre des portes pour commencer à parler de ça aussi, mon histoire un peu, et dire aux enfants, je ne te conterai pas tout de suite, je pense que ce n'est pas le temps pour encaisser ça. Mais voici qui j'étais avant que Jésus-Christ intervienne dans ma vie. Et je commence à leur raconter un petit peu de tout ça pour donner cette perspective gracieuse où on veut aimer ces gens-là, les aimer avec l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez, dans le cœur de vos enfants lorsque vous faites ça? Commence à vous jaser de l'école. Mais justement, à l'école, voici ce qui se passe. Je le vois, c'est comme difficile de t'afficher, c'est difficile de parler de ça. Les gens ont tel principe ou n'ont pas de principe. Puis là, on s'en va sur ce terrain-là. Et donc, au lieu de me retrouver le soir à prier avec mes enfants simplement sur voici comment une nouvelle année qui commence, puis il va falloir s'adapter à tout ça, ma prière peut évoluer avec eux. Parce qu'ils commencent eux-mêmes à se voir comme des missionnaires. Et donc, les choses commencent à changer. Et lorsque Dieu, dans sa grâce, après 1 an, 2 ans, 3 ans, où tu es en train de conduire ta famille dans la mission, quelqu'un accepte le Seigneur. Et là, tu as ce privilège incroyable de commencer à t'investir dans sa vie pour faire un disciple de Jésus-Christ. Il a accepté le Seigneur, puis tu commences à parler avec lui de baptême, puis parler de vie chrétienne, puis étudier les Écritures ensemble. On continue à vivre ça en famille aussi. Quand je rentre à la maison pour souper ou quand je reviens, puis le lendemain, les enfants disent, puis comment ça a été la rencontre? On se donne des principes pour respecter des choses qui seraient sorties dans la confidentialité, mais en même temps, les enfants les ont vus, ces gens-là, ils les connaissent. Ils ne sont pas fous, ils ont appris à voir des luttes, des combats, ils posent des questions. Et là, je commence à leur parler de ce que c'est grandir comme disciple. On parle de la dynamique du cœur, on parle de ce qui se passe dans le cœur humain, des luttes, des combats. Et je mets encore une fois mes enfants à l'abri d'avoir une image du christianisme qu'il s'agit d'une série de codes, de conduites, de clés pour être en règle avec lui puis bien vivre. Mais bien au-delà de ça, on est en train de parler de dynamique, de changement du cœur. Honnêtement, sincèrement, je crois que la meilleure manière de donner une opportunité à mes enfants de connaître personnellement Jésus-Christ, c'est de conduire ma famille dans la mission. L'Évangile va être présent dans nos discussions, dans notre foyer, d'une manière humble et véritable comme jamais auparavant. Mes enfants vont apprendre à dialoguer avec le monde, avec l'extérieur. Ils vont comprendre comment vivre leur foi éventuellement de manière très intègre et très simple, sans voir ces deux vies-là, parce qu'ils nous voient constamment dialoguer avec des non-chrétiens et les conduire progressivement à Christ et les voir changer. Et cette vie-là devient intégrée. Je termine avec ceci. Pour plusieurs d'entre vous, le réflexe est certainement de dire dans vos cœurs, Yannick, on est tellement pas là. Tellement pas là. Je vais essayer de conduire mes enfants à Christ pour commencer. Ça va être un bon début, OK? Puis je vais essayer moi-même d'être un bon modèle comme chrétien. Moi, le défi que je veux vous lancer ce matin, c'est de commencer à mettre ça dans la prière, parce que tout ça se fait en même temps. En même temps. Parce que lorsque je commence à m'engager dans la mission avec ma famille, le reste suit avec. Ma perspective change, mon engagement change, la dynamique de mon cœur change, ma passion change, parce que j'entre en contact avec des gens qui ont besoin de l'Évangile. Et cette motivation que j'ai tellement de difficulté à trouver lorsque je suis tout seul avec ma Bible à dire, « OK, aujourd'hui, Dieu, il faut que je sois passionné pour toi. Puis il faut que je remplisse mes règles, mes devoirs chrétiens. » Et lorsque je suis au contact de quelqu'un qui a une vie qui est difficile, et que je sais que la clé dans sa vie, c'est avoir ce cœur nouveau, et que je commence à prier pour lui avec mes enfants, l'inviter à manger chez nous, il y a toutes sortes de choses qui tombent en place naturellement. Alors, si ce matin, vous êtes à l'endroit où vous dites, « Oublie ça, Yannick, c'est too much comme idée. Si ça prend tout ça, je ne sais pas ce que je vais faire pour conduire mes enfants au Seigneur. » Alors, par où commencer? Commencez par prier, personnellement, vous-même, seul. Ensuite, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, priez en couple ensemble là-dessus. Puis commencez à faire un bilan. ma famille en mission, ça se peut que ça fasse mal, d'accord? Ça se peut que ce soit triste et peut-être culpabilisant. Allez au pied du Seigneur, dites, Seigneur, c'est, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais pour moi, considérer ça, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Et faites ce bilan-là. Est-ce que votre famille est dans la mission? Ou est-ce que le seul champ missionnaire, ce sont vos proches que vous aimez beaucoup? Est-ce que votre famille est engagée dans la mission vers l'étranger? Faites le bilan ensemble. Commencez à partager ça avec les enfants. Commencez à prier en famille là-dessus. Et commencez simplement par demander à Dieu de vous montrer des opportunités. Des opportunités d'aller vers l'autre, d'entrer dans sa vie, de l'aimer, de l'inviter à entrer dans votre vie, que ce soit dans le voisinage, des collègues de travail, des amis de vos enfants, que ce soit par des moyens qui sont ici dans l'Église, à travers la bouffe pour tous, que ce soit votre petit groupe qui prend ce virage vers la mission ensemble pour devenir un petit groupe en mission. Et enfin, parce que c'est notre expérience à nous chez les Étiers, faites un pas à la fois par la foi. Laissez faire les inquiétudes. Dites simplement à Dieu, c'est là que je veux m'en aller. Un pas à la fois par la foi. Et vous allez voir la dynamique à la maison changer, votre cœur changer. L'Évangile va être constamment au milieu de votre foyer. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour ton amour. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce grand privilège que tu m'as donné au moment de ma nouvelle naissance, au moment où j'ai connu l'Évangile personnellement. Ma mère et mon beau-père partaient pour le champ missionnaire. C'était même pas la mission ici, c'était laisser le travail de côté pour plusieurs mois, partir sur le champ de mission. Et il y a toujours eu devant mes yeux cette passion pour aller annoncer l'Évangile, pour aller proclamer l'Évangile. Et ça a été un privilège incroyable dans ma vie. Et Seigneur, je veux reconnaître que tardivement, j'ai amené l'Évangile au centre de mon foyer dans cette dynamique missionnaire. Mais Seigneur, ce matin, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je veux te remercier parce que malgré le fait que je m'y suis pris si tard, Seigneur, où mes enfants étaient déjà pas mal plus vieux. Seigneur, j'ai bénéficié, Esther, aussi dans notre maison de voir cette dynamique incroyable d'un foyer qui s'oriente de plus en plus vers l'autre, vers celui qui ne fait pas partie de notre milieu pour pouvoir l'atteindre avec l'Évangile, l'aimer. Et l'inviter à entrer dans notre vie. Et de voir le fruit que ça produit dans notre maison, dans nos discussions, lorsqu'on revient d'une rencontre puis on dit, hey, tu sais quoi, son cœur est en train de s'ouvrir à l'Évangile. Et voir mes enfants se réjouir de cela, Seigneur. Seigneur, je te prie de conduire nos enfants dans la mission et de commencer par nous, de nous conduire, nous, afin que nous soyons une église de famille engagée dans la mission. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie.